Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix, les voix de la politique ce soir, à mes côtés et à ma droite, un homme plutôt à gauche, c'est Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, et le livre de Nicolas Corato, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Philippe, et bonsoir Philippe.
Eh ben oui,
bonsoir,
il y a deux Philippe ce soir, ben oui, à ma gauche, mais plutôt à droite, Philippe Bilger, voilà, qui fait des heures sup ce soir, voilà, il fait une petite demi-heure.
Avec plaisir.
Supplémentaire, c'est un plaisir, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Et notre débat ce soir, c'est d'ailleurs la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Violence dans le débat politique, le gouvernement a-t-il une part de responsabilité? Évidemment, vous avez tous vu cette image où Éric Dupond-Moretti, dans les Hauts-de-France, se fait interpeller par le candidat Rassemblement National Damien Rieu. Quelques instants plus tôt, dans un marché, le garde des Sceaux avait été alpagué par François Ruffin. On reviendra sur la gifle d'Emmanuel Macron, sur la farine que s'est reçue Jean-Luc Mélenchon. Violence dans le débat politique, le gouvernement a-t-il sa part de responsabilité? Eh bien, vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis surtout, vous nous appelez 0826-300-300. J'attends vos réactions pour en débattre avec Nicolas Corato, avec Philippe Bilger, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique, on revient dans quelques minutes.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix de la politique.
Les voix de la politique sur Sud Radio. Ce soir, je suis accompagné de Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Et puis, pour apporter la contradiction à Nicolas, je doute pas qu'il va le faire, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Voilà. Et puis, évidemment, vous, au 0826-300-300 pour participer à notre débat. La chifle reçue par Emmanuel Macron, on en a beaucoup parlé. Les jets de farine au visage de Jean-Luc Mélenchon. Cette campagne pour les régionales est violente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, violente aussi dans le débat politique. Par exemple, Éric Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France, qui vit une fin de campagne plutôt difficile. Le garde des Sceaux, alpagué par François Ruffin. Et puis, on va l'écouter dans un instant, interpellé par Damien Rieu, le candidat Rassemblement National au départemental. Évidemment, ça a été enregistré, diffusé sur les réseaux sociaux. Écoutez un extrait. Damien Rieu qui interpelle Éric Dupond-Moretti.
Allez. Vous faire applaudir dans les prisons.
C'est minable.
J'ai pas besoin de me faire applaudir.
Mais c'est identitaire comme vous.
C'est minable.
Vous êtes. Voilà, c'est minable, lui répond Éric Dupond-Moretti. Violence dans le débat politique, le gouvernement a-t-il sa part de responsabilité? Vous votez Twitter, YouTube, et puis vous nous appelez 0826-300-300. Tiens, Valentin de Castelnaudary qui va nous rejoindre dans quelques instants. Nicolas Corato, fin de campagne difficile, donc on le disait, pour Éric Dupond-Moretti. Il paraît que la Macronie est très inquiet de ce chemin de croix. Mais il n'y a pas qu'Éric Dupond-Moretti. Hein.
Oui, enfin, c'est une campagne.
Oui, enfin, on sent qu'elle est...
Il faut qu'il se rassure à La République En Marche. Ce sont des propos de campagne, ce sont des incidents de campagne, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et quand on se présente à une campagne, on s'expose effectivement à être bousculé. Je dis bousculé.
Mais avant, ça arrivait d'être bousculé comme ça dans les marchés par un électeur, là, entre deux candidats qui s'investissent.
Des scènes de, scènes de candidats qui se croisent dans le même marché et qui s'apostrophent, on en a des dizaines. Là, en l'occurrence, ça vise un ministre en exercice, mais je crois que c'est pas la première fois. Mais moi, je mets pas ça du tout sur le même registre que l'agression contre le président de la République ou contre l'enfarinage, je sais pas comment on dit,
De
Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. D'un côté, il y a des vraies agressions qui sont pour moi, qui portent en elles quelque chose de très dangereux. D'irrationnel ou de trop rationnel qui m'inquiète en tant que citoyen, et de l'autre, je dirais, le déroulement normal d'une campagne qui a ses moments de tension, mais on reste dans le débat public, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas venus aux mains, ils s'apostrophent. Après tout, c'est normal. Il n'est qu'un candidat.
J'ai envie de dire, il manquerait plus que ça qu'ils en viennent aux mains.
Non, mais bien sûr, parce qu'on n'est pas dans le politiquement correct. Il n'est qu'un candidat parmi d'autres. Ouais. Donc, on lui doit un respect parce qu'il est candidat, mais on a le droit de l'apostropher, de trouver qu'il n'a pas sa place là ou là. Bon, ça fait partie des propos de campagne. Pour moi, c'est pas du tout le même registre, pas du tout que l'agression contre Jean-Luc Mélenchon, contre le président de la République, qui là, vous parliez de débat public, là, on n'est plus dans le débat public. Mmh. On est face à des gens qui refusent le débat public et qui ont renversé la donne, qui remplace le débat public par la violence et la violence qu'ils rendent publique. Et ça, pour moi, ça porte un autre nom.
Le gouvernement responsable de la tournure que prend la campagne
régionale. Le gouvernement, il est responsable en partie d'un climat, qui peut être un climat social, qui peut être un climat politique, Mais moi, je ne veux pas aller dans le sens d'Éric Zemmour, par exemple, qui disait du président de la République, il l'a bien cherché. C'est abject de dire ça. La claque contre le président de la République est une claque contre la République, contre Philippe, contre moi, contre vous, contre n'importe quel citoyen.
Alors, il parlait de la fonction présidentielle
c'est tout autant pareil. Cette agression est une agression contre la République. Donc, quand on est républicain, on dénonce cette agression sans lui donner de raison ou d'excuse. C'est une agression extrêmement grave. Donc, pour moi, il n'y a pas de représentation du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, elle est sur le climat social, elle est sur la manière de lutter ou pas contre cette violence endémique. Et on en parlait en aparté tout à l'heure. Moi, par exemple, le gouvernement aujourd'hui peut décider de poursuivre quelqu'un qui... Je n'ai pas vu, à ma connaissance, de poursuite engagée contre M. Bigard, qui appelle au meurtre, en tout cas, qui crie crève après avoir interpellé une ancienne ministre de la Santé, Mme Buzyn. Là, j'aurais attendu, et c'est peut-être la responsabilité du gouvernement, une action, en tout cas une ouverture d'une action en justice, pour justement faire baisser ce niveau de violence sociale. Si vous avez le droit de dire crève en parlant d'une ancienne ministre en public dans un meeting, alors effectivement, il n'y a plus de limite à la violence qui peut avoir lieu dans nos débats. Donc oui, là, le gouvernement, pour moi, est responsable de cette violence-là quand il ne la poursuit pas.
Ouais. Philippe Bilger.
Alors, je ne séparerai pas radicalement, comme le fait Nicolas, le climat de tension et de violence dans le pays des actes inadmissibles qui ont été commis, la gifle, l'enfarinade. D'ailleurs, pour une fois, il a eu une réaction lucide, il n'a pas déposé plainte. Je ne les distinguerai pas fondamentalement. Je vous rejoins totalement, Nicolas, d'ailleurs je l'ai dit, on peut considérer qu'en désacralisant la fonction présidentielle, le président, d'une certaine manière, a créé un climat de banalisation, de prosaïsme, mais en aucun cas on ne peut dire qu'il a mérité la gifle qui a été donnée par ce type à l'esprit confus. Troisième élément, ce que je trouve nouveau dans ce climat d'hystérie, même lors de la campagne, c'est que elle atteint tout de même un niveau de vulgarité où la contradiction est remplacée par l'hystérie. Et là, je vois une responsabilité du pouvoir, du gouvernement. Il me semble, mais je connais moins la vie politique que vous, Nicolas, la différence, c'est que le pouvoir met la main tout de même très directement dans cet état de tension. Et pour quelle raison ? Alors, je vais très vite parce que sinon, je risquerais sur ce point d'être trop long. J'ai l'impression que nous avons une démocratie aujourd'hui où plus personne ne joue véritablement le rôle qui lui a été assigné. Le président fait autre chose que présider. Les ministres s'engagent dans une campagne municipale alors que le ministre est au service de tous. Et en définitive, chacun n'assumant pas la fonction qui est la sienne, on aboutit à un immense charivari qui débouche, je le trouve, sur une vulgarité totale. Lorsque Damien Rieu du Rassemblement National ou sur un autre registre, François Ruffin, met en cause Dupond-Moretti en disant en gros... Vous êtes ministre, vous devriez travailler. À mon avis, ils n'ont pas totalement tort. Mais tout cela, ça crée un climat extrêmement préoccupant que je ne relierai pas forcément par rapport aux empoignades habituelles.
Ouais. Allez, Valentin est avec nous au 0826-300-300. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Nicolas Corato, Philippe Bilger.
Bonsoir Valentin. Valentin, vous nous appelez de Castelnaudary ?
Toujours, oui.
Ben voilà, c'est ça, toujours. Très bien, Valentin. Alors, qu'en pensez-vous qu'est-ce que vous avez répondu, tiens, si vous avez voté sur les réseaux sociaux ? Vous dites oui à 72% en violence dans le débat public-politique, c'est la faute du gouvernement. Vous continuez de voter, évidemment, sur Twitter et YouTube. Quel est votre avis, Valentin ?
Oui, mais bien évidemment, j'ai envie de vous dire que c'est pas seulement la faute de ce gouvernement. Ça fait 40 ans, en fait, que notre débat public et politique est pollué par justement des brouhahas permanents, par une cacophonie ambiante. J'ai relevé là tout à l'heure, justement, exprès pour cette intervention, l'abstention des dernières élections. C'est hallucinant. Au deuxième tour des présidentielles, il y avait 25% des Français qui n'ont pas été votés. Au deuxième tour des législatives, plus de 57%. Au municipal de l'an dernier, on avait 58% des Français qui n'ont pas été votés. Et il y a un sondage Ipsos qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous informe que près de 40% des Français vont certainement ne pas aller voter aux prochaines présidentielles, soit 4 Français sur 10. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a une défiance du peuple profonde depuis la crise des Gilets jaunes, depuis la Covid, depuis l'ensauvagement de notre société. On n'est plus en sécurité. Il y a des domaines, le domaine régalien, l'État. Il y a des choses qu'on ne fait plus. C'est inadmissible. Moi, je vais vous dire, je vais faire une parenthèse, j'ai 22 ans. Ouais. Je suis quelqu'un de très jeune. J'ai envie aussi d'incarner cette jeunesse dont on n'entend pas forcément parler, cette jeunesse qui en a ras-le-bol, qu'on entend en fait toujours les mêmes. Et vous savez quoi, moi j'ai envie de vous dire, la faute du gouvernement aujourd'hui, c'est installer un climat de peur, d'accord? On nous avait dit, si vous aurez Marine Le Pen, vous allez avoir Marine Le Pen et le chaos. Bah ouais, bah on a eu Macron et le chaos. C'est le chaos tous les jours. Il y a des policiers qui se font tuer, d'accord? Il y a un chauffeur de bus, Philippe Monguillot, qui s'est fait tabasser à mort. Sa femme, sa vie, elle est ruinée à sa femme. Ses filles, elles n'ont plus leur père. Dans un an, il aurait été à la retraite. Il aurait pu profiter de sa vie. Au final, il ne profite de rien, puisqu'elle est, comme on dit, montée en haut du ciel. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, il y a une chose qui m'énerve, c'est que oui, le débat aujourd'hui est pollué par tous ces politiques qui ne pensent qu'à leur place, d'accord? Ça me rappelle cette fameuse phrase de Winston Churchill, notre grand Churchill, qui disait « La différence entre des hommes politiques et des chefs d'État, c'est que l'homme politique pense à sa future élection, alors que le chef d'État, lui, pense aux futures générations. Ouais. » Où sont les chefs d'État aujourd'hui? Et j'ai envie de citer un autre grand homme politique, alors cette fois-ci américain, cette célèbre phrase, et là je m'adresse à l'ensemble des Français, c'est qu'un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Ça, c'était Abraham Lincoln. Et ben, vous savez quoi, les Français, allez exprimer votre colère, non pas dans la rue en allant casser, non pas, comme je dis toujours, il faut être beaucoup plus intelligent que les bêtes, mais dans les urnes. Allez voter soit blanc, allez voter soit un autre parti, mais allez voter. Ouais. Allez montrer à ce gouvernement qui en a marre, qui nous méprise. Allez montrer à ce président Macron qui, depuis son élection et même depuis la campagne, dit des Français qui se sont des Gaulois réfractaires. Qu'on est des gens qui ne sont rien, qu'il n'y a pas d'art ni de culture française, qu'il faut déconstruire l'histoire de France, qu'il faut traverser la rue pour aller chercher un boulot. Mais vous vous prenez pour qui, monsieur? Vous êtes président de la République française. Et vous savez quoi? Moi, je suis profondément démocrate parce que quand j'ai vu la vidéo de monsieur Macron se prendre une gifle, j'ai trouvé ça scandaleux. C'est inadmissible. Mais en même temps, quand j'entends d'autres, et pour faire de la macronie, comme ça fera plaisir à nos macronistes, ce fameux en même temps qu'on a eu à toutes les sauces depuis le début de ce quinquennat, c'est que non seulement il y a une peur, encore une fois, et j'insiste là-dessus, parmi les Français, ils ont peur parce que dès qu'ils sortent dans la rue, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rentrer le soir dans certains quartiers. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir... Alors... Non, désolé, mais c'est très important. Vous voyez, il y a un climat aussi, rien que dans... je vais revenir en 2017. Vous avez des idées de droite, on vous taxe directement d'être d'extrême droite. Vous dites « Vive la France », on vous dit que vous êtes un raciste, un facho, etc. Oh, rappelez-vous la présidentielle de 2017, Fillon-Le Pen, c'est les seuls candidats où il y a eu un acharnement judiciaire contre eux, alors, c'est les candidats de
droite. Valentin, deux choses. Déjà, j'aimerais faire réagir Nicolas Corato et Philippe Bilger sur deux choses que vous avez dit. Déjà sur le chaos, tiens, Philippe Bilger, est-ce que vous utiliserez le même terme que Valentin sur le chaos sous Emmanuel
mais
Macron?
Mais je dirais, on est dans une France, et c'est très banal, fracturé, dans un état de tension extrême, et il est aggravé, peut-être bizarrement, par le fait que le président de la République n'est même pas capable de reconnaître qu'il y a un état de tension, alors qu'il avait promis une France rassemblée. Donc le contraste entre ce qui avait été promis sur le plan du climat psychologique et politique est hallucinant, et je pense qu'on est dans une France qui n'est pas bien, à la limite.
Le chaos, il va trop loin, Valentin ? En parlant de chaos,
on n'est pas dans une situation de chaos.
Non, pas encore.
Mais le chaos peut menacer. Ouais. Et les actes qu'on voit ces dernières semaines sont inquiétants. Très inquiétants. Juste un point sur ce que disait Valentin. Oui, je suis d'accord avec lui. L'abstention, c'est une violence que les électeurs, que les Français se font à eux-mêmes. Là, les abstentionnistes, pardon, mais doivent être face à leurs responsabilités. Il y a une offre politique, elle n'est peut-être pas suffisante ou ni satisfaisante en France, mais ne pas aller voter, c'est considérer que justement on laisse les autres s'occuper du débat public. Et donc de sa propre vie. Ça, c'est une violence qu'on se fait à soi-même. C'est du masochisme, l'abstention, quand on est un citoyen, quand on vit en démocratie. Ou alors, c'est le refus du régime démocratique. C'est autre chose. Et à la limite, ça, je peux comprendre que quand on n'est pas démocrate, on ne participe pas aux élections. Mais quand on est démocrate, quand on ne vote pas, on se fait du mal à soi-même. Ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, la société de défiance. J'ai l'impression, d'abord, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, la société de défiance. La défiance entre les élus et leurs électeurs, ça date de beaucoup plus. Ce qui est en train de changer, c'est deux choses. D'abord, qu'il y a une société de la haine. Moi, je sens de la haine. Et je la sens depuis le Puy-en-Velay, contre le président de la République. Entre une partie des Français et le président de la République, ce qui est extrêmement inquiétant. Et ce n'est pas sa personne qui est nécessairement en cause, c'est aussi ce qu'il représente, ce qui m'inquiète doublement. Deuxièmement, comment on répond à ça quand on est un élu, quand on est président de la République ? Peut-être avec, pardonnez-moi cette naïveté, avec un peu d'amour. Mmh. C'est-à-dire que si cette défiance n'était pas réciproque, si ce président de la République n'était pas lui-même parfois défiant de son propre peuple, si ce président de la République considérait ce peuple et lui disait parfois plus de mots d'amour que de mots de morale ou que de leçons qu'il pourrait asséner, peut-être qu'il réussirait à résoudre, à relier ce lien qui manifestement est complètement cassé entre une partie des Français, une partie seulement, mais une partie importante, je le pense, et lui-même et son parti. Donc il y a une manière de résoudre la société de la défiance, c'est un moment de faire confiance dans le peuple. Et plus le peuple est défiant, plus il faut être confiant dans son peuple pour l'amener là où vous voulez l'amener. Ça, c'est un vrai sujet qu'Emmanuel Macron devrait considérer dans les prochains mois qui le séparent des présidentielles.
Alors, l'abstention, vous en parlez. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, qu'avec la crise sanitaire, la sécurité, les Français, justement, ne vont pas vouloir tout d'un coup aller participer à ce débat, aller voter ? On va le voir dans quelques jours pour les régionales, mais en tout cas pour la présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y aura pas cette abstention tant attendue ?
Probablement, et c'est très dommage, parce que bizarrement, pour des motifs peut-être discutables, les élections régionales fascinent, intéressent un grand nombre de citoyens, peut-être pour des motifs qui ne sont pas valables, une idée de compétition par rapport à la présidentielle. Mais là où je rejoins Nicolas, il est évident qu'il faut voter. On ne peut pas déplorer l'état d'un pays sans exercer un devoir. J'allais dire, ça devrait être un devoir démocratique, parce qu'on est dans une démocratie, tellement somptueusement structurée qu'il faut penser à des pays où elle n'existe pas. Deuxième élément, il faut tout de même se demander pourquoi cette abstention s'amplifie. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une désaffection par rapport au manque d'exemplarité des élites et du pouvoir. Et troisième élément, je trouve que ce qui est très inquiétant, c'est que on n'a pas une hostilité classique à l'égard d'Emmanuel Macron. Nicolas disait que, au fond, ça n'est pas le personnage. Je crois l'inverse. Je crois que la fonction présidentielle n'est pas respectée comme elle le devrait, parce qu'à tort ou à raison, c'est la personne Macron qui ne l'est pas, profondément. Ouais. Et c'est un autre type d'hostilité que celui qui avait été, exercé à l'encontre des présidents précédents.
Merci à Philippe Bilger, que vous retrouverez d'ailleurs demain dans Les Vraies Voix, président de l'Institut de la Parole. Et puis j'aimerais remercier Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Dans un instant, eh bien, vous avez rendez-vous avec Bismarck, Stéphane Soumier. Stéphane qui reçoit Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera, et puis Vincent Huguet, cofondateur de Malte. Stéphane Soumier, Bismarck dans quelques instants maintenant. À tout de suite.